Cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 24 février 1992.
Je réponds tout de suite à deux questions. Les axiomes. Donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, si vous vous souvenez, au plan critique. Les axiomes sont-ils découverts au point de départ de la recherche philosophique ou sont-ils découverts dans une réflexion critique, métaphysique? En philosophie de la nature, on énonce comme axiome ce qui est mu est mu par un autre. Il ne semble pas possible d'énoncer cet axiome au point de départ du fait que l'on n'ait pas encore découvert la phusis, la nature. D'ailleurs, comme principe immanent. Et on ne peut pas faire appel à Dieu sans tomber dans le fidéisme. Cet axiome est-il découvert à la lumière du principe de causalité dans une attitude réflexive? Cet axiome serait-il bien premier dans l'ordre de l'intelligibilité, mais pas au niveau génétique? Oui, c'est toute la question très délicate. On va revenir là-dessus. Je regarde l'autre tout de suite. D'où viennent les axiomes? Du ciel. Sur quoi se fonde-t-il l'axiome de non-contradiction? En quoi est-il une loi de notre intelligence plutôt qu'un principe? N'est-ce pas le jugement d'existence qui permet de le poser? Voyez, au dernier cours que nous avions vu en philosophie première, je vous avais dit que les diverses modalités de l'acte, l'essai, le vrai, le bien, l'opération vitale, le mouvement, permettaient d'expliciter le principe de causalité. Et je l'avais explicité de cette manière. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Est-ce vraiment un principe ou un axiome? J'ai réfléchi depuis. J'avais déjà réfléchi du reste, mais en me posant la question, est-ce que ce n'est pas plutôt un axiome que le principe de causalité? Tout ça se tient très fort, hein. On a très peu explicité ces choses-là. Très peu. Aristote dit que l'axiome de non-contradiction est un axiome. Saint Thomas dit principe. Je crois qu'il va l'exprimer la même chose. Pourquoi l'un dit axiome, l'autre principe? Est-ce que tout axiome est un principe? Est-ce que tout principe est un axiome? Il s'agit de préciser un peu ces termes qui sont et qui restent toujours un peu vagues. Si vous regardez le dictionnaire Lalande, alors là, c'est encore plus confus. Vous voyez que de fait, on emploie constamment l'un pour l'autre. Or, je crois qu'il ne faut pas faire ça. Alors, il me semble, je dis ça, je cherche avec vous, hein, sur ces points, il me semble que l'axiome est un principe dans l'ordre de l'intelligibilité. Donc, dans l'ordre critique. C'est donc un comment. Comment qui n'est pas? Comment lier ce qui est en puissance et ce qui est en acte aux différents niveaux? Donc, c'est une réflexion critique sur le comment de notre vie intellectuelle. Donc, c'est bien un principe dans le sens tout à fait général. Principe, c'est ce qui est premier. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Un principe dans l'ordre de l'intelligibilité. Je crois que c'est ça l'axiome. Donc, l'axiome exprime une loi fondamentale de la vie, de l'intelligence. C'est le comment. Les lois expriment le comment des liens de nécessité. C'est ça qui exprime les lois. Et c'est pour ça que je serais assez d'accord de dire, quand je dis tout ce qui est mu est mu par un autre, je suis en face d'un axiome au niveau des relations entre l'acte et la puissance dans l'ordre du devenir. Tout ce qui est mu dépend d'un autre, donc est mu par un autre. Je prends l'intelligibilité de ce qui est mu. Or, l'intelligibilité de ce qui est mu implique à la fois acte et puissance. Et donc, n'est pas premier dans l'ordre de l'acte, puisqu'il implique la puissance. Donc, il dépend d'un autre. Ce qui permet de comprendre ce que nous avions essayé de préciser, que dans l'ordre du devenir, la puissance est antérieure à l'acte. Et c'est pour ça que tout ce qui est mu, qui implique acte et puissance, dépend d'un acte. Il est antérieur dans l'ordre génétique, mais il dépend de l'acte dans l'ordre de nature, dans l'ordre de perfection. C'est très important, ces choses-là, dans notre vie. Voyez, je prends l'application au niveau théologique, pour le croyant. L'Ancien Testament est mu comparativement au Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous montre la manière dont Dieu éduque son peuple. C'est la grande pédagogie divine qui est ordonnée au mystère du Christ. Et le mystère du Christ apparaît comme l'acte, la perfection, l'accomplissement de tout ce qui est avant. Donc, dans l'ordre génétique, l'Ancien Testament est premier. Dans l'ordre de perfection, le Christ est premier. C'est sûr. Alors, quand il s'agit de saisir la signification des choses, l'imparfait ne donne jamais une signification parfaite, ce qui est imparfait. Un gland, regardez bien un gland, est-ce qu'il vous donne l'intelligibilité du chêne? Non, c'est l'intelligibilité de la graine, ce qui est en puissance, vers ce qui est en acte. Alors, tout ce qui est mu par un autre. La croissance, c'est quelque chose qui est mu. L'Ancien Testament est mu. Mais c'est intéressant, parce que quand on veut chercher, et c'est ce qu'on fait, hélas, constamment, l'intelligibilité d'un mot du Nouveau Testament à travers l'Ancien Testament, est-ce que c'est tout à fait juste? Je peux chercher dans l'Ancien Testament un développement d'une notion de la signification. Et c'est pas l'Ancien Testament qui éclaire le Nouveau. C'est le Nouveau qui éclaire l'Ancien. Je me souviens, c'était peu de temps après la guerre, un abbé aumônier des étudiants à Paris, qui a voulu, c'est un converti de Claudel, qui a voulu se poser le problème ainsi. Le Christ que nous regardons actuellement est-il vraiment le Christ annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament? Alors il avait réuni un groupe d'étudiants et ensemble il avait fait cette recherche. Et au terme, ils avaient dit c'est pas juste. Le Christ de l'Ancien Testament, annoncé dans l'Ancien Testament, n'est pas celui que nous regardons aujourd'hui. Le Christ que nous regardons, nous, c'est à travers les évangiles. C'est à travers l'Église et l'enseignement actuel de l'Église. Je n'ai pas le droit de mettre entre parenthèses le Nouveau Testament, l'enseignement actuel de l'Église, pour voir si le Christ dont on parle aujourd'hui est bien celui qui était annoncé par l'Ancien Testament. Mais annoncé, oui, mais tel que les prophètes le disent. Mais c'est vouloir juger le parfait par l'imparfait. Je ne peux pas faire ça. Et du reste, ça a été très simple. Lui-même, hélas, a quitté l'Église, a adhéré au marxisme, et tous ceux qui étaient avec lui ont adhéré au marxisme. Il s'est marié. C'était le point d'orgue. Parce que je n'ai pas le droit de mettre entre parenthèses ma foi au Christ tel qu'il est révélé dans l'Évangile. Et tel que l'Église, dans son enseignement actuel, me le donne. J'ai pas le droit. Ma foi, ce n'est pas mon invention. C'est une lumière qui vient d'en haut. C'est une lumière divine. Que je fasse ça à titre de recherche, très bien, je n'engage pas ma foi. C'est très différent. Alors, je dirais, pour que vous ayez quelques idées un petit peu nettes, mais je suis d'accord qu'on doit chercher, hein. On doit chercher et on cherche ensemble là-dessus, parce que moi-même je cherche. Étant donné que dans la tradition scolastique, on a tout mêlé, et c'est pour ça qu'on n'y comprend plus rien du tout. C'est pas intelligible du tout. Philosophiquement, on doit toujours tout reprendre. Parce que ma philosophie, c'est mon travail personnel. Et donc on doit tout le temps tout reprendre. Je suis tout à fait d'accord qu'on doit tout le temps tout reprendre à partir de l'expérience. En respectant toutes les expériences. En reconnaissant la différence entre l'expérience directe de l'homme, l'expérience clinique, l'expérience qui est l'expérimentation scientifique. On doit distinguer. C'est pas les mêmes expériences. Et donc on doit distinguer. Je vous avais toujours donné cet exemple qui m'avait tellement frappé avec ces psychanalystes freudiens qui m'avaient demandé de travailler avec eux. J'avais accepté puisqu'ils m'avaient demandé ça. J'y allais pour eux. Puis ça m'intéressait aussi de voir comment ils interprétaient Freud. Alors on avait amené nos amis, puisque pour être un public un peu plus intéressant que des psychanalystes et uniquement deux ou trois philosophes. Et après la première séance, tout de suite, ces psychanalystes ont dit « Oh mais un tel, une telle, ça aurait besoin d'un petit peu d'analyse. » Alors je me suis fâché, poliment. Et je leur ai dit, est-ce que vous m'avez demandé de vous amener des clients ou des amis? C'est pas la même expérience. Ah, ils m'ont regardé. Ils disent non, c'est pas la même expérience. je vous amène un client. Je comprends très bien que vous avez un œil psychanalytique. Et l'œil psychanalytique n'est pas l'œil normal. On vient trouver un médecin. Ben, il est psychanalyste, il est psychologue, il est... Bon. Tandis que l'œil normal, on trouve un ami. Et que vous voyez que cet ami a des défauts. Et lui a vu aussi que vous en aviez. Et c'est pas ça qu'on voit en premier lieu chez un ami. On voit ses qualités. Puisque je vous ai dit que c'était des amis. Et que vous me considérez comme un ami, donc vous devez les regarder aussi comme des amis. Et découvrir en eux. Vous voyez, on doit tout le temps, toujours revenir à la source, philosophiquement. Alors, il est bien évident que les axiomes, on les acquiert. Mais on les acquiert comme des principes évidents et non pas conclus. Et je crois, alors, c'est là où j'en arrive au point de vue critique, je crois que tout principe propre découvert au niveau philosophique a son axiome au plan critique. Vous voyez ? C'est normal. Tout principe propre découvert au niveau philosophique, je peux regarder ce principe propre ou cette cause propre découvert au niveau philosophique. Je peux le découvrir, je peux le regarder en critique. Et je découvre à ce moment-là l'axiome au niveau intelligibilité qui existe à l'intérieur de ce principe. Vous voyez, au fond, distinguons bien critique et philosophie. Que dans l'exercice de ma vie philosophique, dans l'exercice de ma vie de philosophe, la critique est toujours présente. Toujours. Mais pas explicité. Et c'est ce qui explique comment, si facilement, on a confondu des principes propres, philosophiques et des axiomes. On a fait entrer dans la scolastique décadente, c'est ça le père Garrigou Lagrange, le fait des axiomes. Alors, à ce moment-là, on tombe sous la critique de l'ontologisme qui confond un ordre intelligible et l'ordre réel. Passe de l'intelligible à la réalité directement. Ce que je ne peux pas faire. Je ne peux pas dire que tout ce qui est intelligible est réel. Parce qu'alors à ce moment-là, vous confondez l'ordre des possibles et l'ordre de ce qui est. Et c'est vrai que la scolastique décadente, donc déjà depuis plusieurs siècles, depuis Descartes, si vous voulez, et avant Descartes, Occam, la scolastique décadente, de fait, est décadente parce qu'elle confond l'ordre de l'intelligibilité et l'ordre réel. Et la seule manière de revenir à une philosophie saine et vraie, c'est de distinguer ce que je découvre en philosophie première, c'est-à-dire en métaphysique, et de bien le distinguer de ce que représente l'ordre des réalités connues. ce qui est connu, le connu comme tel, de ce qui est connu. Ma connaissance n'est jamais identique à la réalité. C'est la connaissance de cette réalité. Et je suis capable de distinguer les deux. C'est tout l'aspect critique. Donc, les axiomes présupposent toujours la connaissance philosophique des principes. Et c'est la réflexion critique sur ces principes qui me permet de découvrir les axiomes. C'est pour ça que je reprends ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je dis tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte, ce qui est en puissance n'a d'intelligibilité que par rapport à ce qui est en acte, n'est intelligible pour moi que par rapport à ce qui est en acte. Ceci est un axiome qui présuppose la découverte de la finalité au niveau métaphysique. C'est-à-dire l'antériorité de ce qui est en acte par rapport à ce qui est en puissance. Et de comprendre que ce qui est en acte exerce sur ce qui est en puissance une force d'attraction, une causalité finale. Ce qui est en acte attire ce qui est en puissance. Ce qui est en puissance est attiré par ce qui est en acte. Ceci au niveau de l'être, au niveau du vrai, au niveau du bien, au niveau de mes opérations vitales, au niveau physique. Les cinq niveaux. Donc, voyez, c'est important justement d'essayer de bien saisir la place des axiomes en critique pour bien saisir cet ordre au niveau de l'intelligibilité, au niveau de ce qui est connu, et le distinguer du principe propre saisi dans la réalité. Saisi philosophiquement dans la réalité, saisi métaphysiquement dans la réalité. Voyez, quand je découvre par induction l'être en acte, je le saisis comme un principe selon la fin de ce qui est. Donc je le saisis comme la fin de ce qui est. Ce qui est n'est parfaitement lui-même que lorsqu'il est en acte. Tout ce qui est en puissance n'est jamais la réalité parfaite. C'est toujours une réalité en attente. C'est une réalité en attente. L'Ancien Testament est une réalité, au point de vue de la révélation, en attente de la révélation plénière. Ceci nous est dit dans l'Épître aux Hébreux. Ceci nous est dit à travers tout l'Évangile où Jésus. Ça, c'est l'application au plan de la foi. Mais c'est constamment comme ça dans notre vie. Au début, quand on vous enseigne la philosophie, au début, vous saisissez quelque chose. Et vous avez beaucoup de peine à le repenser et à pouvoir le redire. Vous avez dit, vous dites oui, j'ai compris au cours, j'ai suivi à peu près au cours, oui, j'ai pu suivre, mais incapable de le redire, incapable. Et ce n'est pas parce que vous êtes incapable de le redire que vous ne l'avez pas compris. Vous l'avez compris imparfaitement, mais vous l'avez compris. Vous l'avez compris comme quelqu'un qui reçoit et qui est incapable de pouvoir reprendre tout par lui-même. Seul celui qui est parfait est fécond. Cette fameuse affirmation d'Aristote. Seul celui qui est parfait est fécond. C'est vrai dans la vie de l'intelligence. Seul celui, et du reste, Aristote en fait l'application. Et saint Thomas le reprend. Seul celui qui a parfaitement compris est capable de l'enseigner. La fécondité, le communiquer. Il faut l'avoir compris parfaitement. Quand je ne l'ai pas compris parfaitement, je tourne autour. Donc, il y a une distinction qui est très importante à faire entre axiome et cause. Toute cause est un principe. Tout axiome est un principe. Mais l'axiome n'est pas cause. Donc n'exprime pas un lien dans l'ordre du devenir ou dans l'ordre de l'être. Il exprime un lien dans l'ordre de l'intelligibilité. Et voyez, il se fonde sur la cause et sur le principe. Puisque tout ce qui existe est intelligible. Et ce n'est qu'en atteignant par l'expérience ce qui est que je progresse dans la connaissance des choses. Je ne progresse pas autrement. Je dois revenir tout le temps à la réalité pour pouvoir progresser. Autrement, je risque toujours d'imaginer. C'est peut-être très intéressant, mais je risque, à partir de là, d'imaginer et de réaliser quelque chose qui est d'ordre purement du possible. Comme toute l'imagination, c'est de l'ordre du possible. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce qu'un ordre est possible qu'il existe nécessairement. Le possible, je l'ai découvert à partir d'une réalité existante. Mais ce possible a pu se développer au niveau du possible, par l'imaginaire. C'est pour ça, pour être sûr que ce possible, selon l'ordre que j'ai découvert, est réel, il faut revenir à l'expérience. Je ne peux pas, par moi-même, uniquement par une réflexion critique, dire « il existe ». Non. Je peux dire « cet ordre est rationnel, cet ordre est intelligible, il est logique, ça tient debout ». Mais est-il réel ? Ah, attention, revenons à la réalité, à l'expérience. Et la distinction entre l'être en acte et l'être en puissance me permet d'affirmer cela avec une très grande audace. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Et alors, ce que je vous disais la dernière fois, c'est pour ça que je comprends très bien ces objections, parce que je me l'étais faite moi-même. C'est tout à fait bien. Quand je découvre inductivement l'être en acte et l'être en puissance, il est bon tout de suite de voir que cette distinction se fait selon 5 niveaux. C'est les 5 modalités de l'acte. Et par le fait même, il y a 5 niveaux de potentialité d'être en puissance à partir de l'être en acte. Et je peux donc saisir qu'il y a 5 ordres de nécessité que le principe de finalité va pouvoir s'exercer de 5 manières différentes. Au niveau proprement métaphysique, philosophie première, le possible, c'est ce qui peut exister et c'est ce qui peut ne pas exister. Le possible, comme tel, ne passe en acte que grâce à une réalité qui est parfaitement acte. Tout possible dépend de l'acte. Vous voyez, là, je suis en face vraiment d'un axiome explicitant la priorité de l'acte au niveau de l'intelligibilité. Puisque le principe de causalité, lui, commence par la cause pour montrer la dépendance à l'égard des faits. L'axiome, lui, part de l'état particulier de l'être en puissance pour montrer que l'être en puissance, comme tel, dépend de l'être en acte. Donc je pars, au contraire, de l'être en puissance vers l'être en acte qui est, d'une certaine manière, présent dans l'être en acte, dans l'être possible. Puisque je ne peux pas parler d'une réalité possible sans avoir eu une certaine expérience de l'être en acte. Et c'est pour ça que je peux dire que tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Alors réfléchissez là-dessus. Et puis s'il y a des difficultés, vous les poserez pour qu'on puisse bien voir la distinction de la critique des axiomes, de la découverte des principes propres et des causes propres en philosophie. Alors faites-le pour toutes les parties de la philosophie. C'est un petit exercice merveilleux, ça. Parce que on voit que c'est pas si commode. Et on voit qu'il y a des difficultés. Alors vous l'opposerez, puis j'essaierai de vous donner la solution en cherchant ensemble. Alors, nous étions au point de vue critique, nous allons continuer à comprendre que la critique du jugement implique la capacité de mon intelligence d'atteindre la vérité. Et je vois tout de suite ce qui est au fond aussi très important, de voir que la vérité, elle est à la fois dans mon intelligence. Quand j'énonce telle vérité, quand je découvre tel principe, l'âme humaine est principe et cause, selon la forme du vivant. Voilà ce que c'est que l'âme au plan philosophique. L'âme humaine, elle est ce qui est source de toute détermination en moi. Ce qui permet de dire que le corps tire toute son intelligibilité de l'âme. J'allais presque dire ça, c'est une pointe de critique. Le corps tire toute son intelligibilité de l'âme. Mon âme est présente à travers tout mon corps. Et elle est présente comme source de toutes les déterminations et comme acte. Mon âme finalise mon corps vivant. Elle lui donne sa signification profonde. Donc, il y a une vérité à l'intérieur de mes jugements. Ces jugements sont vrais ou ces jugements sont faux. Je peux moi-même critiquer mes jugements, essayer de comprendre ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. faux à cause de l'imaginaire, faux à cause d'un manque d'expérience. Alors on a déduit trop rapidement, et ce n'est plus directement le contact avec la réalité qui est exprimée. La vérité est donc à l'intérieur du jugement. Et la vérité, elle est aussi dans les réalités existantes. Puisque ces réalités existantes mesurent mon jugement, mesurent ma connaissance. Je découvre là donc une relation très particulière entre ce que je connais et la réalité existante. Et là, je peux reprendre cette fameuse affirmation de saint Thomas dans le De Veritate. Il dit ça à la suite de saint Augustin. La vérité adéquatio intellectus ad rem. Alors, il s'agit de bien comprendre. La vérité, c'est la conformité, l'adéquation de ce que je dis par rapport à la réalité. Si je dis « Pierre est assis » parce que je le vois, on me bande les yeux et je continue d'affirmer « Pierre est assis, Pierre est assis ». Et puis en réalité, Pierre s'est levé entre deux. Ma vérité était juste à un moment donné, il était bien assis. Mais j'ai pas pu contrôler. J'étais coupé du réel. Et je continue d'affirmer, Pierre est assis, Pierre est assis. En réalité, il n'est plus du tout assis. À ce moment-là, oui, c'est tout bête. C'est une simplicité élémentaire. À ce moment-là, mon jugement qui était vrai s'est changé. Il n'est plus vrai. Et si j'ai un ami à côté de moi et que j'ai un bandeau sur les yeux, il donnera un coup de coude. Il s'est levé. Et à ce moment-là, je dirais, ah, il n'est plus assis. Vous voyez, comme c'est curieux. Et les constatations et les réflexions sur la vérité ont commencé par là. En Grèce, c'est très très simple. Comment ça se fait que la proposition demeurant la même, la réalité changeant, la proposition perd son caractère de vérité? Alors, ça prouve que la vérité n'est pas quelque chose de réel. Puisque mon jugement est resté toujours le même. J'ai continué d'affirmer, Pierre est assis, Pierre est assis, Pierre est assis. La réalité change. Mon jugement n'est plus vrai. Mais comme c'est curieux, et comme ça exprime la relation la plus radicale qui existe entre mon jugement et la réalité. Si la réalité change, mon jugement perd sa qualité. Et la réalité est donc bien mesure de mon intelligence, de ce que j'affirme. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je définis de cette manière, quand je précise de cette manière ce qu'est la vérité, je précise ce que je dis est la réalité, ce que je pense est la réalité. Donc, quand on dit adéquatio intellectus ad rem, c'est pas assez précis. Il faut dire adéquation de ce que mon intelligence saisit avec la réalité, de ce que mon intelligence dit et la réalité. C'est pas la même chose.